Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Comics Weekly, épisode numéro 24. Dernière sortie du mois d'octobre, sortie du 27. Et donc, avec une très très grosse sortie attendue depuis plusieurs mois, qui se retrouve en double review, mais on voit ça tout à l'heure. Voilà. Avant, on commence comme d'habitude avec le numéro de la semaine. Numéro pair, c'est moi qui commence.
C'est bien, Steve. Alors ça c'est cool. Tu commences l'émission alors tout seul, Steve. Dis même pas, je suis avec Mister One et Bunny, donc je suis là quand même. Les gens
nous connaissent, ils savent qui nous sommes.
Oui.
Mais plus besoin de se présenter. Mmh. C'est magnifique. Donc Impulse 24, qui date de avril 1997. Scénario Mark Waid, dessin de Humberto Ramos, ton auteur favori, hein, ton dessinateur favori en tout cas.
Mon dessinateur favori, oui, bien sûr.
Et ancrage de Wayne Fosher. En fait, c'était un épisode où, juste l'épisode avant, Impulse venait de retrouver sa mère du futur, qui venait de traverser le temps pour aller chercher son fils. Et il se retrouve devant un choix, soit rester au temps présent, en tout cas à l'époque, soit repartir avec sa mère dans le futur, et finalement il repart avec sa mère dans le futur, puisqu'il... c'est sa mère, quoi.
D'accord.
Donc c'était assez sympa, c'était un petit tournant pour le personnage. On se dit, ah, il va vivre des aventures dans le futur, sachant que bon, Impulse avait quand même tout un tas de relations avec Flash. On se dit, bon, ça va changer pas mal de choses. Et il s'avère que finalement, la vie du futur lui plaît pas tant que ça. Et l'épisode d'après, il va passer tout l'épisode dans le futur, parce qu'à la fin de l'épisode 24, il décide de repartir. Le 25, il passe toute la vie dans le futur, et finalement, enfin tout l'épisode, pardon, dans le futur, et finalement, il revient dans le temps présent juste après.
Avec sa mère?
Non, sans sa mère. Sa mère reste au 30e siècle et lui revient.
D'accord.
Mais elle est dans une maison vide car Max Mercury est parti.
Ok.
Mais Max Mercury qui était son père adoptif, en fait, hein, la personne chez qui il vivait, quoi.
Ah, je croyais que c'était simplement son coloc, tu sais, qui avait foutu le camp.
Non, Max
Mercury. Histoire de payer le loyer. C'était tout de suite moins dramatique, quoi, tu vois.
Non, c'est celui qui lui servait de père de substitution, en fait, chez qui, oui, il était hébergé, voilà.
Son mentor, quoi.
Exactement, parce que en même temps, il lui apprenait à mieux servir ses pouvoirs, lui apprenait un petit peu la vie au XXe siècle, hein, qui n'est pas du tout la même que du temps où il venait. En tout cas, c'était assez sympa, franchement.
D'accord.
Voilà. Bah, écoute, je te laisse maintenant la parole.
Alors, pour moi, mon numéro de la semaine, ce sera le X-Factor 24.
Quel volume?
Oui, ça faisait partie de... Ah oui, de quel volume? Je croyais qu'il était... Oh, quel volume! Mais quel volume! Oui, le premier volume. Premier volume. Donc on est dans les années 80, je crois encore. 87.
Fin des années 80, ouais, pour le numéro 24.
Voilà, ça fait partie du crossover Fall of the Mutants. Donc, en fait, ça a marqué le coup c'était l'arrivée des crossovers massifs sur les X-Men, quoi. C'était vraiment le premier, au fait, quasiment.
Ouais.
Il y avait eu un truc à Asgard, mais bon, c'était un petit peu différent. C'était sur des numéros annual avec les Fantastic Four. Là, c'est la première apparition d'Archangel. Donc, on connaît tous Angel, mais là, il devenait le fameux Archangel avec ses ailes métalliques.
Oui, c'est là que...
Le cavalier d'Apocalypse.
C'est X-Factor qui s'aperçoit qu'il est devenu méchant, qu'il est devenu mort.
Oui, voilà, c'est ça, exactement. L'un des quatre cavaliers, je crois qu'ils sont quatre.
Mm-hmm.
Si je dis pas de bêtises.
C'est ça. Il y a mort, famine, pestilence et guerre.
D'ailleurs, le seul X-Men, pour l'anecdote, je crois, qui deviendra aussi un cavalier à un moment donné, c'est Gambit.
Ouais, bah on en a eu d'autres, hein, beaucoup. De toute façon, mort, c'est celui qui change tout le temps, hein. Ils n'arrivent jamais à garder.
Ah, il y a Wolverine.
Oui, il est passé en tant que mort. On a eu Caliban aussi.
Ah oui, exact, ouais, c'est vrai.
Mais bon, est-ce qu'il était réellement un X-Men? Il a fait partie d'X-Force, mais était-il réellement un X-Men? Ça reste
sujet. Ouais, il fait quand même partie de la grande famille des mutants.
De toute façon, ouais, franchement, mort, c'est vraiment celui qui change tout le temps, quoi. Celui qu'Apocalypse n'arrive jamais à garder. C'est con.
Bah ouais. En même temps, c'est un petit peu le rôle ingrat, hein. Qui veut jouer la mort? Bon, remarque, Pestilence, c'est pas mieux non plus.
Mais qui veut jouer la mort, on en reparlera tout à l'heure, d'ailleurs.
Oui. Hein, exactement. Quelle belle transition.
Magnifique. Donc, c'est des vieux souvenirs, ça, quand même. Hein.
Des bons souvenirs. Parce que c'était pas mal du tout à l'époque.
Ah non, c'était bien. Fall of the Mutants, c'était un très bon crossover.
Le moment où ils se croisaient, sans se croiser d'ailleurs.
Ouais. Et puis ensuite, à la fin de Fall of the Mutants, les X-Men sont partis vivre en Australie.
Oui, c'est là, avec le siège du péril, ouais. Avec le fameux, comment il s'appelle, l'arborigène qui se téléporte.
Gateway.
Ouais, Gateway, ouais. Voilà. Donc, et puis les Rivers aussi, je crois.
Les Rivers.
Ah, tu les aimes bien, Steve.
Faut marrer. Enfin bref, ouais, bah, c'était une bonne époque tout ça.
Bon alors vas-y, on va raconter nos vieux souvenirs, puis je pense qu'on va s'arrêter là.
Ouais voilà, hein. C'était là le Comicity le plus court de l'histoire jusqu'à présent. On va passer aux news maintenant peut-être, Benny.
Oui, jusqu'à présent, parce qu'au fait on continue, c'était une boutade. donc on va commencer par les news Marvel peut-être.
Bah oui, allons-y.
Alors tu te souviens de Onslaught Reborn?
Oui. Hein, ça... Malheureusement, je m'en souviens.
Tu l'as lu?
J'ai commencé, j'ai arrêté, c'est une merde.
Moi, je l'ai lu entièrement à l'époque, Stormborn, de Jeff Love. Eh bien là, on va avoir, en février 2011, attention, Onslaught Unleashed.
Ouh.
Onslaught est de retour. Pour, alors, je sais pas si c'est juste pour un one-shot ou si c'est pour une mini-série. En tout cas, c'est Sean McKeever qui s'y colle au scénario et Philippe Andrade au dessin.
D'accord.
Voilà. On n'a pas plus d'infos sur au fait le format. Tout ce qu'on sait, c'est Onslaught Unleashed, et on a une image.
Onslaught, j'imagine.
Onslaught entouré de d'autres super-héros. Voilà, donc pour les fans d'Onslaught, s'il y en a encore.
Je peux donner mon avis?
Oui.
Ça sent le moisi quand même.
Ah bah oui. Oui mais bon, oui mais alors, moi j'aime bien
beaucoup
les
de gens ont détesté Onslaught, mais moi j'ai bien aimé. Franchement, j'avais bien aimé à l'époque Onslaught.
Ouais, bah, moi j'ai
les
vu
conséquences
Reborn, et
les conséquences étaient autre chose, mais bon voilà, j'ai bien aimé Onslaught quoi.
Ouais.
Mais là ça sent le tirage de corde quoi.
Oui, bah oui, mais bon. Ça m'attire tout ça, c'est des curiosités.
Tu disais que donc tu avais lu Onslaught Reborn en entier et tu as trouvé ça bien?
Bon.
Ton silence en
garde
dit
pas,
non.
J'en garde pas tellement un mauvais souvenir non plus quoi. J'avais trouvé ça divertissant.
Ouais, j'ai pas pu aller au bout de la lecture, ça m'a fait profondément chier, j'ai dû arrêter je crois au deuxième.
D'accord.
En plein milieu du deuxième d'ailleurs.
Non mais moi je l'avais acheté en français, donc ça devait être sorti dans un hors-série je crois. De Marvel Heroes, il me semble. Bref, on continue les news Marvel avec une annonce de Marvel. Au fait, de février à avril 2011, Marvel lance une opération un peu spéciale, c'est-à-dire qu'il y aura certains comics qui seront notés d'un numéro 1 après le numéro correspondant, par exemple Amazing Spider-Man 654 aura un petit numéro 1 de noté dessus. C'est au fait des petits numéros 1 qui seront là pour servir de jumping point au nouveau lecteur éventuel.
Donc ça veut dire que déjà on nous sort que le 648 avec l'arrivée de Dan Slott est un jumping point, et donc le 654 sera lui aussi un jumping point.
Bah apparemment, alors par exemple
quel est l'intérêt de faire un jumping point tous les 6 mois, enfin tous les 6 numéros quoi.
Mais je ne sais pas, mais en tout cas ils font ça pour beaucoup de comics. Donc par exemple Invincible Iron Man 500 sera aussi accompagné d'un petit logo 1 quoi, tu vois.
Bon, à la rigueur là c'est concret, enfin là je veux dire bon pour le 500 voilà, on peut arriver à comprendre.
Bon, mais, il y aura
pour Spider-Man, ça me fait rigoler quoi.
Ouais, il y a des trucs comme ça, comme le Wolverine 5, le Deadpool 32, Uncanny X-Force 5, par exemple. Enfin, tu vois, des numéros où le Uncanny X-Men 534...
Ouais,
tu vois,
en ça... gros, numéro 1, c'est juste nouvel arc, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. C'est des jumping points, au fait. En tout cas, je le vois comme ça. Ils appellent ça l'initiative Marvel Point One, au fait. Voilà, ça permet donc aux nouveaux lecteurs de démarrer une série.
Ouais.
Et, au fait, chaque numéro marqué d'un 1, quoi, sera vendu à 2,99$ par contre.
c'est le moyen de baisser le prix, sans dire qu'on baisse le prix pour faire comme DC. C'est quand même voilà. très fort Marvel, bravo.
Mais juste sur ce, marqué d'un numéro 1, en fait, c'est un prix d'appel, quoi.
Oui, oui.
Voilà.
Bravo Marvel, bravo.
Donc, de février à avril, il y aura donc quelques titres comme ça, avec du Captain America, du Hulk, du Thor, du Avengers, du Secret Avengers.
Ouais, enfin, en gros, tous les titres, quoi.
Non, il y en a une dizaine.
Enfin, d'annoncer pour le moment. Gros titres, quoi.
Ouais. Donc, voilà. Donc, surveillez vos comic shops si vous voulez commencer l'une de ces séries. Voilà. On pourrait peut-être vous faire un premier numéro, entre guillemets, à 2,99$. Sinon, aussi, toujours chez Marvel, quand il n'y en a plus, il y en a encore, les Marvel Zombies reviennent en mars 2011 avec une mini-série en 5 par Frank Marafino et Fernando Blanco, Jason Paz et Chris Chukri. Donc je pense que Frank Marafino se colle au scénario et que les autres seront les dessinateurs attitrés. Mm-hmm. une mini-série en 5, donc Marvel Zombies Supreme, donc dans l'univers de Supreme Power en fait, ouais. Le Squadron Supreme. Bah que dire, moi je trouve que là on commence à saturer aussi au niveau Marvel Zombies, donc je sais pas si ça va être super intéressant ou si c'est vraiment histoire de, d'exploiter la licence au maximum, sachant
en fait,
que
les Marvel Zombies passent de réalité en réalité, ce sont les nouveaux X-Files.
Ouais, c'est un peu ça. Bah de toute façon c'est ça en fait, hein, concrètement. Depuis le début, il passe quand même de d'une réalité à une autre. Hein. Par exemple, l'arc avec Ash de Devil Dead, ça se passait, je crois, dans une autre réalité, ou bien le mec changeait de réalité à un moment donné.
Je crois que c'est Ash qui venait dans la réalité de Marvel Zombies.
En puis même, on avait eu des Marvel Zombies qui se situaient sur la Terre 616 ensuite.
Oui, oui, bah oui, c'est ça. Mais bon, du coup, maintenant, ça se repasse ailleurs, donc.
Donc voilà. Donc bon. À voir ce que ça donne, sachant que les derniers albums de Marvel Zombies, il y en a un qui est sorti en français, je crois que c'était le sixième, qui est sorti en français tout récemment, est tout à fait dispensable. Donc
c'était la mini-série Marvel Zombies 5 d'ailleurs.
Ouais, ouais. Plus ça va, moins c'est bien. Et l'une des grosses news aussi Marvel, ou plutôt Icon, devrais-je dire. Alors voilà. Qu'est-ce que je te disais il y a pas si longtemps ? Je te disais que Mark Millar allait sans doute nous faire un crossover un jour, Nemesis Superior. Eh bien, Mark Millar a lâché une image avec Nemesis face à Superior, mais aussi au milieu, on retrouve Kick-Ass. Ouais. Alors, va-t-il y avoir un crossover entre les trois ? C'est fort possible, puisque il essaye de faire son Millar World. Donc peut-être qu'un jour on aura un crossover avec les trois personnages.
Je ne sais pas, en fait, en même temps, quand on regarde bien, ce sont trois pages différentes, ce sont trois covers différentes. C'est peut-être ni plus ni moins que des variantes de cover pour Kick-Ass, Superior et Nemesis, pour la dernière partie, de manière à former, avec tous les titres icônes de chez Millar, une espèce de grande image quand on les met côte à côte.
Mais ce que je pense, c'est que il essaye de créer un buzz pour dire, voilà, ça va arriver un jour. À mon avis, ça va arriver un jour.
Bah peut-être, je sais pas, là pour le moment, là c'est un peu flou quoi. C'est vraiment un peu flou, on sait pas trop ce que ça va être. Donc un crossover, des variants de cover, je sais pas. Moi pour le moment je pencherais plus pour des variants de cover.
Ouais, moi aussi, mais je pense que ça annonce aussi un probable crossover un jour, ou un one shot avec les trois quoi en fait.
Peut-être.
Ensuite, on va passer chez DC. Mm-hmm. On apprend que Paul Cornell et Scott McDaniel vont remplacer Peter Tomasi et Patrick Gleason sur Batman et Robin à partir au fait du numéro 17 jusqu'au 19, donc le temps d'un arc. Donc bon, bah, décidément ça change pas mal quoi sur cette série. Alors je sais pas si Peter Tomasi fera du bon taf, mais en tout cas Paul Cornell c'est aussi plutôt encourageant.
Bah, sur Batman, faut voir.
Ouais, bah en tout cas ce que j'ai lu de Paul Cornell pour le moment chez DC, c'est plutôt pas mal du tout. Donc j'attends de voir ce que ça donnera sur Batman et Robin, une série qui est toujours à surveiller quoi. Ouais. Après le départ de Grant Morrison, je crois qu'il d'ailleurs il s'en va, je pense au numéro 12 ou 13, non
non, parce qu'ils sont déjà sortis.
Ah bah oui, la bonne blague.
Je crois que c'est qu'au 15 qui va s'en aller, un truc comme ça.
Put. Bon, eh bien voilà, on a déjà un mot de la fin avant le bref. Selon notre ami Rich Johnson, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler, la future série Hawkman par James Robinson, qu'on a annoncé il y a quelques temps, devrait être dessinée par Philip Tan. Voilà, on a le nom du dessinateur.
En plus que James Robinson sur Hawkman, ça peut-être nous donner quelque chose d'intéressant.
Ah oui, il a quand même totalement relancé Starman dans les années 90.
Ben voilà, et puis il lui avait donné tout ce côté lignage... lignée, pardon. Je sais pas si parler français.
Non, non, tu vas le parler en anglais. Lineage.
Ouais, je fais du franglais à la JCVD. Donc ouais, tous ces côtés lignés, etc. Et avec Hawkman, c'est quand même super présent dans la mythologie du personnage. Donc, je sais pas, ça peut être sympa. Ou il peut totalement se foirer comme il fait en ce moment.
Ah, ouais, enfin, ça dépend. Ça dépend. Parce que par exemple, New Krypton, je m'attendais à rien et le début, enfin, ça commence très fort quand même.
Ouais, et regarde ce qu'il fait sur la Justice League et la Justice Society, et voilà.
Ah bah, on verra. On verra, parce que pour le moment, j'en ai pas lu beaucoup, donc sans doute, je vais te dire que c'est génial. Mais bon, on verra. Et on termine sur de l'indé, avec l'annonce du nouveau projet de Brian Azzarello et Eduardo Risso.
Ah.
fameuse équipe de chez Vertigo. Et en fait, ils ont dévoilé, c'est assez drôle, leur nouveau projet lors d'une convention en Argentine. Voilà. Donc bon, comme quoi les Argentins ont le droit à un gros scoop.
Ah, c'est peut-être parce qu'ils sont de là-bas, je crois.
Oui. Mais bon. Généralement, tu vois, c'est dans les grandes conventions américaines qu'on a ce genre d'infos, et là, voilà. Donc, ils leur ont fait ce petit cadeau, si on peut dire. Ce sera une série de science-fiction, et ça s'appellera tout simplement, pour une série de science-fiction, c'est bon, ils sont pas allés chercher loin, ça s'appellera Spaceman. Voilà.
D'accord. Et c'est toujours chez Vertigo.
Ouais, avec des couvertures de Dave Johnson, toujours. Puisqu'on sait qu'il a déjà fait des couvertures pour eux précédemment. Donc 9 épisodes sont prévus pour 2011 et ensuite ce serait apparemment des mini-séries.
Bah en tout cas moi, enfin je sais pas, Azzarello Risso sur de la science-fiction. Moi je pense que je vais aller jeter un œil.
Ouais, voilà. Spaceman, ça me rappelle, tu sais, ce truc des années 90, là.
Ah, Babylon Zoo, ce quoi.
Oui, Babylon Zoo, voilà, je cherchais le nom. Les extraterrestres. Ouais. Avec le Christ intergalactique, je crois. Enfin, bref.
Si on peut éviter de rouvrir des vieilles plaies.
Non, si, on rouvrons des portes. Voilà. On a l'habitude d'ouvrir des portes dans Comic City, donc ouvrons les portes. c'est tout pour les news de cette semaine, et c'est déjà pas mal, ma foi.
C'est déjà pas mal, ouais. En tout cas, c'est plus mouvementé que la semaine dernière où il n'y avait rien.
Oui, bah c'était l'après-salon, donc comme souvent, pas de beaucoup de news quoi du coup.
Ouais. Ok, on va passer aux reviews. On commence comme d'habitude avec la double review. Et cette fois-ci, c'est la grosse sortie de la semaine, le hardcover Superman Earth One. Donc scénario de J. Michael Straczynski. Dessin de Shane Davis, ancrage de Sandra Hope. Donc c'est un pavé. Hein.
Oui. De 130 pages, je pense.
À peu près, ouais, 130 pages.
Ouais.
Bah, il est 136, en fait. Les premières pages incluses, ça fait 136 pages. Donc, qu'est-ce que Superman Earth One? C'est ni plus ni moins que Ultimate Superman.
Oui, c'est Ultimate Superman. Bah, en fait, on disait déjà ça de Superman All-Star, en fait. La gamme All-Star, c'était un petit peu l'univers Ultimate chez DC.
Ouais, sauf que Morrison nous avait fait quand même quelque chose d'assez différent d'Ultimate. Enfin, il était parti de ce Superman que tout le monde connaît, sans forcément expliquer beaucoup les origines au départ. Voilà, c'était vraiment une aventure de Superman. Là, on nous réexplique toutes les origines de Superman, Superman qui devient Superman. C'est vraiment à nouveau des origines, mais placé dans un monde à part.
Ouais, et puis il y a ce côté un petit peu plus sombre quand même, qui est propre aussi à l'univers Ultimate de Marvel, qu'on retrouve là à travers ce Superman-là. Quoi.
Ben, le côté récent, en fait. Hein, c'est vraiment ancré dans la réalité d'aujourd'hui. Même si, finalement, ça peut rester assez intemporel, parce que on nous fait pas trop mention de choses telles qu'Internet, téléphone portable, ce genre de choses. Donc, ce qui fait que pour le dater, je pense que dans 10 ans, ça sera encore lisible. Et que ça donnera un côté assez frais.
Ouais, c'est certainement, mais... bon... Bah, écoute, dis-moi déjà ce que tu en penses. Je pense que je ferai suite à ton avis.
Ben, moi, franchement, j'ai plutôt bien aimé.
Ouais.
Dans l'ensemble. Mmh. Bon, je voudrais pas trop en dire parce que je pense qu'il faut le lire quand même. C'est quelque chose qu'il faut découvrir soi-même pour voir si on aime ou pas. Donc, je vais pas trop révéler l'histoire. Bon, c'est vraiment, comme je disais, le début de Superman, quoi. Clark Kent arrive à Metropolis.
C'est les origines retravaillées, quoi, encore une fois. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle fois un peu les premières aventures.
Le sont-elles vraiment retravaillées? Il n'y a pas énormément de choses qui changent au final.
Bah, il y a quand même une chose majeure qui m'a. En fait, c'est ça qui m'a déplu, en fait. C'est le comportement de Clark Kent, en fait.
Le comportement du départ?
En fait, le comportement de Clark Kent qui est là. Super froid, au fait, comme personnage, et qui limite me fait penser à une espèce de personnage à la Dexter, c'est-à-dire le mec est inhumain dans le sens où on a l'impression qu'il éprouve aucun sentiment. Ouais. Et ça m'a vraiment gêné, surtout au début, ouais, effectivement. C'est-à-dire que comme on a l'impression qu'il éprouve rien à ce qu'il fait, à ce qu'il vit, Superman perd tout ce côté humain qui le rendait proche du lecteur, quoi, à la base.
Bah, en tout cas, c'est le cas au départ. Parce qu'après, malgré tout, ça change.
Oui, ça change, mais est-ce que c'est pas un... pour moi ça change un peu tard, quoi.
Puis en même temps, il est pas si inhumain que ça parce que les choix qu'il fait, il le fait pour sa mère.
Ouais,
Et uniquement pour elle, c'est ce qu'il lui dit, c'est ce qu'il lui dit, c'est ce que sa mère se tue à lui dire au téléphone plusieurs fois. On le voit au travers de l'épisode. Il faut que tu fasses les choses pour toi et pas pour moi.
Mais non, ouais. Mais enfin voilà, il a un petit côté froid qui, pour Superman me déplaît un peu, quoi. Et puis, JMS fait quand même quelques petits changements par rapport aux origines qu'on va pas révéler. Ouais.
Alors, des changements que j'ai quand même plutôt appréciés, tu vois. Et notamment la révélation finale quand il obtient tout le savoir kryptonien.
Ouais.
C'est quelque chose que j'ai apprécié, que j'ai, à la rigueur j'aimerais bien voir une suite. Tu vois.
Est-ce qu'il y aura, en fait, à mon avis, si ça fonctionne bien, et d'ailleurs il y a des chances que ça fonctionne, cette nouvelle gamme de graphic novel, quoi, puisque c'est du graphic novel, même si c'est pas publié exactement comme tel, puisque
si, c'est vraiment du graphic novel, c'est du hardcover, c'est vendu comme tel dans des librairies aux États-Unis aussi.
Est-ce que c'est pas moins cher que les graphic novels?
20 dollars quand même, hein.
Ouais, je sais, oui, enfin, voilà.
Pour un hardcover de 136 pages.
D'accord.
C'est le prix, hein. C'est le prix. D'accord.
Bon, enfin, dans tous les cas, ce qui était original, c'était de lancer cette gamme sous ce format-là, finalement.
Ouais.
Puisque c'est quand même la première fois qu'on fait à ma connaissance, qu'on publie une série mainstream comme ça, en fait.
Bah, uniquement comme ça. On avait déjà eu le cas de graphic novel comme ça chez Vertigo, etc.
Oui, bien sûr.
Chez DC,
je dis pas qu'il n'y a pas eu de graphic novel auparavant.
Chez DC, je suis moins sûr. Je voudrais pas dire oui parce que je sais pas, en fait.
Parce que là, c'est quand même toute une gamme, au fait, Earthswan. Donc c'est pas un graphic novel. Enfin, basique comme on a d'habitude, quoi. Généralement, un graphic novel, c'est un truc unique, finalement. Là, c'est une gamme, quoi, finalement, la gamme Earthswan. Oui. Donc, a priori, d'ailleurs, ça se situerait dans le même monde, j'imagine.
Peut-être.
Le futur graphic novel Batman.
On attend avec impatience, mais qui,
à mon avis, on va devoir encore attendre un petit peu.
Je crois que c'est prévu pour 2011, hein, le début 2011.
D'accord. Bon, s'ils n'ont pas de retard avec les dessins.
Le prochain m'intéresse aussi énormément puisque c'est Batman écrit par Geoff Johns. Quelque chose que j'attendais de voir depuis
oui,
un bon moment.
T'as même pas besoin de le dire, on comprend pourquoi tu l'attends.
J'attendais de voir Geoff Johns sur du Batman, autre chose que sur des petites histoires. Donc voilà, est-ce que Geoff Johns va nous refaire un peu cette magie qu'il nous a faite un peu partout sur Batman, parce que c'est un personnage qu'il a pas réellement exploré jusqu'à présent.
Bon, en tout cas, moi, pour revenir à Superman Earthswan, je ne suis pas particulièrement convaincu par ce graphic novel, par cette nouvelle version du personnage de Superman. Alors décidément, JMS déjà sur Superman m'a pas convaincu. Là, sur Earthswan, bof.
Mais tu vois, moi, il me convainc vachement plus là que sur la série Superman.
Il me convainc plus, certes.
Et j'aurais envie de dire, franchement, virez JMS de Superman en série régulière et foutez-le là-dessus à plein temps. Et qu'il nous ponde des trucs là-dessus à plein temps, ça c'est cool.
Voilà. Ouais, mais enfin, je sais pas. Enfin, moi, tu vois, ça m'a un petit peu déçu. Alors, par contre, comme d'habitude avec JMS, il y a des dialogues vachement bien pensés.
Ah ouais, non, c'est savoureux.
Les dialogues sont, enfin, il y a des scènes avec Perry White, avec, j'allais dire Perry Mason, avec Perry White, avec
Lois aussi.
Lois, ouais.
Jimmy. D'ailleurs, Jimmy a un super rôle, je trouve. Là, il est pas cantonné au petit photographe de merde, souvent comme on le met. C'est-à-dire que là, il a vraiment un rôle prépondérant dans l'histoire. Il y a aussi ce côté, je fais ami avec Superman tout de suite. Mais là vraiment on sent qu'il a un petit peu de poids quand même au Daily Planet, ce qui est pas forcément le cas souvent dans les histoires. Jimmy Olsen, c'est le mec qui va chercher le café, c'est le stagiaire, quoi, grosso modo. Il prend des photos, mais on le traite comme un stagiaire, alors que là on le traite comme un journaliste à part entière. Et ça, c'est une bonne trouvaille.
Là c'est plutôt un Ben Urich, quoi, en fait.
Ouais, sauf qu'il est photographe. Je le verrais plus comme un Peter Parker, tu vois.
Oui. Oui, voilà, en fait. Oui. Enfin, en tout cas,
le Ben Urich, je le verrais plus justement comme un Lois, comme une Lois Lane.
Oui, voilà.
C'est plus proche, quoi. La casse-couille qui gratte là où ça fait mal.
Ouais. Et alors, pour un graphic novel, on n'a quand même pas parlé d'un truc super important, les dessins de Shane Davis.
Qui sont, je trouve, super bons.
Oui. D'ailleurs, ça m'a...
C'est super appliqué.
Ça m'a étonné, d'ailleurs, puisque finalement, il n'a pas mis tant de temps que ça.
On nous a parlé déjà de Earthswan depuis plusieurs mois, et puis c'était peut-être déjà commencé.
Ouais. Mais en tout cas, le délai est à peu près tenu. Hein. Je sais pas si on a eu du retard, finalement. Est-ce que ça a été retardé, au final?
Je ne sais pas du tout. Honnêtement, je me suis pas renseigné là-dessus.
Ouais, non, parce que bon, enfin, en tout cas, le Batman, on l'attend un peu plus, du coup, mais le Superman, voilà. Donc, les dessins, alors, faut dire que ça fait quand même penser un peu à du, il y a un style un peu Jimlinesque quand même.
Ouais.
Un petit
ouais, mais
peu.
C'est le style Shane Davis, quoi.
Oui, c'est le style. Ça fait penser à du Image, quoi, mais du Image. La colorisation est super bien réalisée, je trouve.
Elle est super douce. Mm. J'ai oublié qui était la couleur, je l'ai pas noté et puis j'ai pas retenu son nom.
Mais par exemple, l'effet avec les yeux laser de Superman, voilà, là ça vraiment ça pète, quoi.
Ouais.
Les robots, les espèces de dioses.
Il se fait vachement plaisir, quoi. Je veux dire, il met du méca en plus, enfin ce genre de choses, là où on l'attend pas forcément, quoi.
Ouais.
Donc il tape un petit peu dans tout, et justement c'est peut-être ça aussi qui rajoute encore plus de charme à ce graphic novel. Bon, après j'étais surpris parce que quand j'ai feuilleté le bouquin, bon, j'ai vu l'ennemi, puisque bien sûr Clark Kent devient Superman, hein, c'est pas un spoiler de le dire.
Oui, oui, c'est le but quand même de l'histoire.
Et donc il affronte un ennemi. J'ai cru que c'était le Silver Banshee, et pas du tout.
Non.
Enfin, que c'était une version du Silver Banshee, en fait pas du tout.
Non, d'ailleurs, pourtant, le design est très proche. Tu m'as appelé tout à l'heure, ouais. Et tu me dis, oui, le Silver Banshee, je me suis dit, mais de quoi parle-t-il?
Oui, puisque toi, tu l'avais déjà lu, et moi, encore.
Voilà. Et donc, voilà, et j'ai trouvé cet ennemi, en tout cas, un peu cliché aussi, quand même. De toute façon, il y a vraiment quand même des trucs, c'est ce qui m'a posé problème au début de l'histoire, je suis pas rentré dedans tout de suite, parce que c'était vachement cliché, les scènes, les premières scènes, quoi, et puis... il y avait ce côté un peu too much, quoi. Le mec est surpuissant et on a l'impression que personne se dit merde, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas normal, quoi, tout ça, quoi. Il devrait y avoir des flics, l'armée, tu vois, qui est envoyée pour surveiller le mec. Enfin, tu vois, c'est limite ça, quoi. Et là non. Donc bon.
Moi, je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai passé un super bon moment en lisant ça.
Bah écoute, ça fait plaisir de t'entendre dire ça d'un travail de Straczynski quand même.
Bah non, enfin c'est vrai que ces derniers temps chez DC il m'a plutôt déçu.
Ouais.
Mais avant sur Thor il me décevait pas du tout, au contraire.
D'accord, bah écoute, moi c'est l'inverse en fait, j'ai été assez déçu, je m'attendais peut-être à trop en fait.
Peut-être.
Trop de sa part et surtout là-dessus. Et du coup voilà, donc un petit peu déçu. Je te cache pas que là je m'attendais pas forcément à ça sur Superman Earthswan. Je m'attendais à plus.
Peut-être une deuxième lecture maintenant, disons dans quelques temps, en connaissant déjà un petit peu l'histoire et en ne t'attendant pas à plus que ce qu'il y a, te permettra de plus l'apprécier.
Oui, peut-être. Bon, en tout cas, faites-vous votre opinion, dites-nous ce que vous en avez pensé, surtout. Et puis je terminerai en disant que moi par contre j'aime ce qu'il fait sur Wonder Woman. Je n'en démords pas.
Voilà. Donc ta note finale.
Ah moi c'est quand même un bail parce que c'est bon quand même, mais c'est pas parce que ça m'a déçu que c'est mauvais. Je m'attendais à plus, c'est tout, quoi. C'est mes espérances étaient peut-être trop élevées voilà.
Peut-être que c'est moi qui aurais.
À force de lire plein de choses, on devient de plus en plus exigeant, c'est normal.
Et peut-être que c'est moi qui aurais cette même réaction que le Batman Earthswan.
Ah, peut-être.
D'ici quelques temps, c'est donc jamais. On verra bien. Pour moi aussi, c'est un bail. Alors, je sais pas si une version softcover est prévue, qui pourrait permettre de descendre le prix, parce que faut avouer quand même que $20, ça taxe. Avec le cours de l'euro actuel, ça revient moins cher, c'est sûr, mais encore faut-il trouver une boutique qui respecte bien ce cours-là.
Bien le recommander sur Internet, généralement, c'est moins cher.
Ouais. Et puis comme je disais, avec cette différence entre l'euro et le dollar, on peut arriver à le toucher pas si cher que ça, mais c'est vrai que peut-être qu'une version softcover permettrait d'abaisser le coût. Alors je sais pas du tout si elle est prévue. En tout cas, il y a fort à parier que ça va être sold out assez rapidement. Donc si vous voulez en hardcover, si vous le voulez en hardcover, dépêchez-vous.
Si vous le voulez, si vous le voulez tout simplement, quoi, puisqu'on sait même pas si ça tire.
Bah, non, mais non, il y aura des reprints, c'est obligatoire. DC va pas perdre de l'argent. Enfin, c'est quelque chose qui est super attendu. Il y a déjà des comic shops aux États-Unis qui sont sold out de Superman Earth One.
De merde. Ouais. Ça t'a plu, Steve, ça se voit.
Désolé, j'ai un petit peu la masse. Voilà. Dépêchez-vous si vous le voulez. Ou alors attendez le reprint, mais ce sera sûrement d'ici un mois ou deux, le temps de republier des hardcovers. Donc voilà, si vous le voulez maintenant, c'est maintenant qu'il faut aller au comic shop, très vite. Très très vite, allez, vous devriez déjà être parti.
Très vite, pas comme Superman dans sa série éponyme qui marche, allez-y en courant, en volant même.
magnifique, je tire mon chapeau.
Comme Nono.
J'en étais sûr.
Voilà.
Ok, on passe au review solo. Commence cette semaine avec Avengers vs Pet Avengers, numéro 1, mini-série en 4. Au scénario, Chris Heliopoulos, et au dessin, Ig Gara. Alors je sais pas si ça se prononce Ig ou IG ou IG, j'en ai aucune idée. Alors, déjà, première chose, le titre est totalement trompeur. En tout cas pour cette première partie, c'est pas du tout Avengers vs Pet Avengers. Ils sont plutôt même obligés de faire équipe.
Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, c'est plutôt Meet the...
Voilà, ce serait plutôt Avengers et Pet Avengers.
Oui.
Que ça devrait s'appeler. Et d'ailleurs, même, on devrait plutôt dire Pet Avengers et Avengers, puisque finalement, les Avengers ne font que de la figuration dans cet épisode. Mais justement, c'est encore mieux, je trouve, puisqu'on a un épisode quasiment que sur les Pet Avengers, et c'est à mourir de rire. C'est franchement super bon. Les dessins de Ig Gara... sont assez cartoony, assez doux, ils correspondent bien au style et à l'ambiance, quoi. Chris Heliopoulos dans ses dialogues est toujours savoureux avec les personnages qui certains ne peuvent pas s'empêcher de se casser les uns les autres.
Ouais.
Donc, expliquer le concept des Pet Avengers, ce serait pas mal aussi. Les Pet Avengers, ce sont fait tous les animaux de compagnie
des
comics, en fait, puisque Loki ne fait pas réellement partie des Avengers, quoi. C'est le petit dragon de Kitty Pryde, donc des X-Men.
Ah oui, c'est vrai.
Donc c'est vraiment tous les animaux tous les animaux de compagnie des personnages Marvel qui forment une équipe. Donc on a Joe, on a Redwing, le faucon de Falcon, on a Speedball, pardon, pas Speedball.
J'ignorais qu'il était devenu un animal.
Nils, le chat de Speedball, justement.
Oui.
D'où ma confusion. On a Throg, la grenouille Thor.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà, on a Loki, comme je disais, et on a Miss le caniche. Je sais même pas de qui c'est l'animal. Et on a aussi Zabou.
Barry Seaton, sans doute.
Et on a aussi Zabou, le tigre dans le sable de Kaiser.
Ah d'accord.
Donc tout ça forme une joyeuse équipe.
Vraiment tout le monde, quoi, en fait. Ils viennent vraiment de tous les horizons, on va dire.
Ouais, exactement. Et donc ils commencent par arrêter un voleur dans un petit magasin. Donc bien sûr, le voleur comprend pas trop ce qui lui arrive puisqu'il se fait défoncer par des animaux.
Donc, voilà, enfin, défoncer, il se fait...
Ah non, il se fait défoncer, je veux dire. On a même Throg qui le foudroie avec la foudre de Thor, quoi.
D'accord.
Bon, bien sûr, vu sa taille, c'est à une petite échelle, mais le mec en peut plus, il relâche l'argent.
Oui, ça a de quoi surprendre, en tout cas.
Voilà. Surtout quand on a des animaux qui lui parlent en disant « Toi, vil gredin, rends cet argent. » Enfin, voilà. c'est complètement fou, mais c'est génial, quoi.
Remarque, vu la tête de gueule d'or et sa taille...
Ça fait peur aussi.
Je lâcherai le fric, hein.
Et justement, la scène qui est énorme, c'est quand même que Throg, pour paraître plus grand, se met sur le museau de gueule d'or.
Ah oui.
C'est de là qu'il fait « Toi, vil gredin. » C'est énorme. Enfin, c'est vraiment très con, mais c'est génial. Et donc, Throg, justement, par ses pouvoirs qui ressemblent énormément à Thor, entend un message, un appel au secours de Thor, justement, un appel télépathique, et ils vont se rendre, ils ont besoin d'eux, en tout cas les trois Avengers, la Sainte Trinité Avengers, donc Thor, Captain America et Iron Man, ont besoin d'eux, donc ils vont les aider, sur une île du sud du Pacifique, où l'île où ils arrivent, ni plus ni moins qu'un espèce de volcan géant en éruption. Oui. Et là, les trois Avengers ne sont plus eux-mêmes. et il se retrouve confronté à une menace énorme, avec encore un autre animal légendaire, cette fois-ci.
Fing Fang Foom.
Exactement.
Oh, t'as vu, je suis balèze. Franchement, j'ai pas regardé du tout le numéro.
Et donc, voilà, donc ça va être Avengers et Pet Avengers versus Fing Fang Foom et sa bande.
D'accord, très bien, ok. Bah, ça promet, en tout cas.
Et franchement, c'est vraiment génial. Pour moi, c'est vraiment un bail. Si vous voulez vous marrer, c'est vraiment excellent.
Ok. Passe-moi à DC avec le Action Comics 894. Le scénario est de Paul Cornell et les dessins de Pete Woods. Et donc, c'est un numéro assez attendu, au fait. Ça fait partie du crossover, enfin du crossover de l'arc Black Ring. C'est la cinquième partie, mais c'était une partie très attendue puisque, rappelle-toi, on l'avait dit il y a quelques mois,
oui,
Death, donc de chez Vertigo, fait une apparition dans Action Comics. Et c'est plutôt marrant, quoi, en tout cas. Alors, moi, je connais pas tellement Death. Hein. Je dois te dire que le personnage, comme j'ai pas beaucoup lu Sandman, et je crois qu'elle est particulièrement apparue dans Sandman.
Bah oui, puisque c'est la sœur de Sandman.
Voilà, troc.
Enfin,
les choses, ça fait bien les choses. Ouais. Donc, Death, que je ne connais absolument pas, a priori, j'ai lu très peu, en tout cas, de ses apparitions. Et ben là, elle se retrouve... face à Lex Luthor et au fait quasiment tout l'épisode c'est une espèce de dialogue entre les deux et elle lui fait un petit peu son introspection quoi il y a le elle fait elle lui sert un petit peu de psychologue peut-on dire et Lex Luthor
ah, tu... Non, ça me fait marrer, j'imagine la scène, quoi.
Oui, d'accord. En tout cas, c'est très drôle. On peut pas trop en dire, puisque finalement, tout est dans le dialogue, quoi. Tout est, c'est quasiment que du dialogue entre les deux personnages, finalement, pendant tout l'épisode. Mais c'est très marrant. Le seul reproche, c'est que, finalement, on sait pas pourquoi Death est apparu comme ça. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, au fait? Est-ce que c'est lié, au Black Ring ou pas puisque en tout cas c'est pas dit. Bon, que vient faire Death ici? Est-ce qu'il y a un lien avec Blackest Night?
Peut-être. Non, je pense pas, non.
Tu penses pas?
Non, puisque c'est quand même clairement un personnage de chez Vertigo, c'est déjà énorme de l'avoir mis dans le DC Universe proper.
Ouais.
Donc je sais pas, peut-être juste un moyen de faire un gros coup de pub et en même temps un gros délire pour Paul Cornell.
Oui,
en tout cas ça a été approuvé par Neil Gaiman, donc déjà voilà, il a pas fait ça dans son dos, quoi.
Oui, en tout cas, c'est un délire plus que réussi, puisque honnêtement, ça se lit d'une traite, c'est vraiment super drôle. Et donc Paul Cornell toujours aussi à l'aise avec le personnage de Lex Luthor, c'est vraiment assez énorme en fait depuis qu'il a repris la série. Donc je vous conseille vraiment de lire Action Comics. En ce moment, c'est vraiment pas mal du tout. Ça se termine sur un petit cliffhanger quand même.
Ouais.
Donc à voir ce que va donner la suite. A priori, Death disparaît. Alors je sais pas si elle va revenir dans la série ou si elle était juste là pour un épisode, quoi, finalement.
D'accord.
A priori, elle est juste là, je crois, pour cet épisode, finalement. Donc c'est un peu, c'est juste ça qui est un peu décevant, puisqu'on pense qu'on va pas la revoir, quoi. Ce serait un peu dommage, mais bon. En tout cas, c'est un bon délire. Juste pour préciser aussi que il y a un backup Jimmy Olsen, écrit par Nick Spencer et dessiné par R.B. Silva. C'est assez spécial. C'est complètement déjanté, hein, comme souvent avec Jimmy Olsen. Mais alors, en ce moment, je lis pas mal de Jimmy Olsen, bizarrement, puisque j'en ai lu en français dans New Krypton. Et là, je relis du Jimmy Olsen, alors qu'avant, c'est vrai que sans doute c'est la première fois que je lis du Jimmy Olsen, finalement, ces derniers jours. Là, cela dit, c'est assez drôle, mais une fois qu'on a lu l'épisode avec Death et Lex Luthor, je veux dire, c'est vraiment très très secondaire, quoi, on va dire. Donc bon. Du coup, je crois que le comics au total doit faire une trentaine de pages, mais le backup est vite oublié par rapport à l'histoire principale. Ce qui est pas plus mal d'ailleurs.
Pour lire du Jimmy Olsen, je t'encourage à lire la série Superman Spell Jimmy Olsen, à l'époque où il y avait Kirby, justement. Avec la première apparition de Darkseid, notamment, ce genre de choses.
Ouais, non mais ça doit être vraiment classique, en fait.
Ah oui, c'est du classique. Mais bon, ça te permettrait de lire du Jimmy Olsen si tu veux en lire du bon, quoi.
Mmh. Donc voilà, un bail, hein. Action Comics, c'est vraiment très bien. Mais là, en plus, cette rencontre avec Death, Et d'autant plus pour les lecteurs de Vertigo, bah, c'est un incontournable, j'ai envie de dire.
Oui. Et ben, c'est bien.
Bah ouais.
Déjà, trois bails.
Oui, déjà trois bails et ça pourrait continuer, je sais pas.
La suite, c'est Incognito Bad Influences numéro 1.
Ah bah tu m'étonnes que ça va continuer alors.
Je crois que c'est en 6. J'ai pas vérifié, mince. Mais je crois que c'est une mini en 6, hein, comme la première. Le scénario est d'Ed Brubaker et les dessins, comme toujours, de Sean Phillips. Dessin et lettrage, hein, d'ailleurs. J'ai vu aussi que c'était lui qui faisait le lettrage. Bon, c'est pas grand-chose, mais il fait toujours un truc de plus, quoi.
Oui, mais...
Et Val Staples à la couleur. Donc c'est-à-dire que c'est un comics fait par trois personnes seulement.
D'accord.
C'est donc le retour de Zach Overkill qu'on avait pu voir dans la première mini-série Incognito, bien sûr, c'est toujours sur le même personnage. Il s'est passé un an depuis la fin de la première mini-série. Il travaille maintenant pour le SOS, cette espèce de d'organisation qui...
SOS, non, ouais.
Oh là là. Il travaille donc pour le SOS, hein, cette fameuse organisation qui traque les super-vilains, dont ouais. Il faisait partie avant, hein, puisque c'était un ancien super-vilain qui s'est retourné contre son camp, qui était dans le programme de protection des témoins.
Bah, c'est un peu le Shield, au fait, le SOS.
Ouais.
Ah bah ouais, si.
Si on veut.
Avec des voitures volantes et tout, ils ont même leur
char. Ah oui, non, le Shield, excuse-moi, je pensais à la série.
Ah non, du tout, du tout, du tout.
C'est pour ça que je me disais, ouais.
Le Shield de Marvel, comme on l'avait dit à l'époque de la review.
Excuse-moi, j'étais pas du tout sur le même truc là. Donc, en fait, pourquoi il travaille pour le SOS ? Parce que c'est le seul moyen pour lui de pouvoir garder ses pouvoirs. Parce que donc il ne fait plus partie de ce programme de protection des témoins. Et donc, Zoé, celle qui est un petit peu la dirigeante hein, du SOS, lui a dit si jamais tu veux garder tes pouvoirs, tu travailles pour nous. Sinon, tu reviens un humain normal. Et il avait pas envie de se passer ses pouvoirs. Donc il est obligé de se réadapter à une vie en civil tout en faisant des missions pour ce SOS, en arrêtant des criminels nazis, des criminels asiatiques. Enfin, on a vraiment un côté un petit peu Captain America, j'ai l'impression, des fois. Dans la façon de. Dans les ennemis traités, quoi. En tout cas dans ceux qui nous montrent. Mais en même temps, toujours ce côté très pulp, hein,
ouais.
Qui est très présent dans la série. Et bien sûr, ça va forcément mal se passer.
Évidemment.
Il y a forcément
sinon,
un truc qui va déraper. Et en fait, il va croiser, en étant en civil, puisqu'il doit garder une identité secrète, ce qui doit lui permettre, puisqu'il continue d'aller voir un psy depuis un an, pour se réajuster à la vie normale, et s'il doit garder cette identité secrète, c'est ni plus ni moins que pour se rapprocher des humains normaux et ressentir de l'empathie pour eux et avoir envie de les défendre. Voilà. Chose qu'il n'apprécie absolument pas, d'ailleurs. Mmh. Et il croise la route d'un vieil homme qui lui jette un regard étrange et le fait d'avoir croisé ce vieil homme va déclencher tout un tas de choses disons qui pètent quoi pour être gentil.
D'accord.
C'est voilà. Ça va exploser de partout et il va se retrouver dans une situation vraiment vraiment difficile pour lui. Je vais pas en dire trop, je veux pas trop révéler le plot de cette mini pour le moment, découvrez-le par vous-même. Alors certains diront que c'est un petit peu facile de faire ça. Moi je trouve que ça peut être intéressant. Faut voir comment Brubaker va utiliser l'évolution du personnage depuis un an.
D'accord, mais parce voilà. Que est-ce que c'est toujours aussi drôle ? Parce que le premier volume était quand même très drôle.
Ah bah oui, les réflexions de Zach à propos des gens qu'il croise, des gens qu'il habite dans son immeuble. Enfin, dans l'immeuble dans lequel il réside, en tout cas, sous son identité secrète. Enfin, c'est toujours drôle, quoi. Le mec est toujours très cynique, très froid. Voilà, c'est ça. Il y a aussi ce charme-là à cette série. On a toujours, à la fin de l'épisode, comme sur la première mini-série, des chroniques sur les héros pulp par Jess Nevins.
Mm-hmm.
Et donc, cette fois-ci, c'est sur Phantom Detective, un personnage pulp qui a pourtant une très très longue carrière et qui est aujourd'hui totalement oublié.
On les avait pas eu ça en français. Hein.
On les a pas eu en français, mais ils étaient présents dans la version originale.
D'accord.
Donc pour moi, c'est clairement un bail, pour le moment une bonne suite. J'attends de voir où ça va, mais j'aime bien le pitch de départ en tout cas.
Ok.
Voilà. Donc je veux pas trop en révéler puisque
au moins aussi bon que le début de l'autre quoi en fait.
Ah ouais, pour moi ouais. Pour D'accord. moi ouais.
Bon bah alors c'est clairement un bail. Hein. Je pense que je vais vite me le lire et me l'acheter surtout.
Mais c'est pour ça que je veux pas trop en dire parce que le plot, comme je dis, je pense que le plot va pour certains, disons que ça va gêner quoi. Les gens vont dire c'est un peu facile, etc. Mais le titre peut révéler un petit peu si on cherche bien.
D'accord.
Voilà. Donc, je te repasse la parole. Ouais, bye. Bye. Je te repasse la parole pour ce dernier, pour cette dernière review solo.
Avengers numéro 6. Le scénario est de Brian Michael Bendis. Les dessins sont de John Romita Jr. et l'ancrage de Klaus Johnson, pour ne pas le nommer, puisque Klaus Johnson et John Romita Jr. Fonctionnent plutôt
sont
bien.
Sont en fait la même personne.
Voilà. ce serait possible, en fait, au final. Alors, rappelle-toi, les Avengers voyagent à travers le temps. Mm-hmm. C'est une espèce d'intrigue à la exilée un petit peu, le time stream est en train de partir en live. Et ils essayent de le réparer en s'étant rendus donc dans une époque où ils rencontrent leurs enfants, une espèce d'équipe de Young Avengers, peut-on dire, leurs enfants dans le futur. Ils ont rencontré donc une ancienne version une version futuriste, on va dire, de Tony Stark. Et au fait, le seul moyen qui pourrait réparer le temps, ce serait que il retrouve Ultron et au fait ce serait la clé de la réussite, quoi.
La clé de l'énigme.
Ouais, enfin voilà, bon. Et donc bien sûr, donc toute l'équipe qui allait dans le futur, donc Wolverine, Iron Man et quelques autres, Captain America, Bucky par exemple, et Captain Marvel, voilà, pour ne pas les nommer non plus, arrive bien sûr à retrouver Ultron. Les choses ne se passent pas exactement comme ils le voudraient. Sinon, ce serait pas drôle. Et ce qui est super bien fait dans cet épisode, c'est qu'en fait, on revoit des scènes qu'on a vues dans les autres épisodes précédents, des scènes qui se situent dans le futur, et au fait, on comprend vraiment le sens de ce qui se passait.
D'accord.
Par exemple, rappelle-toi, dans le tout premier numéro, on voyait Immortus, en fait, se faire apparemment dézinguer par les fils des Vengeurs.
Ouais.
Alors, est-ce que c'était un bien ou est-ce que c'était un mal? Il paraissait être super méchant. Alors, est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était eux qui causaient problème ou est-ce que c'était un faux semblant? Et ben là, au fait, on revoit tout. J'ai envie de dire dans l'ordre. Et c'est vachement bien foutu, au fait, cette fin d'arc, quoi. D'accord. Ça remet vraiment les choses en ordre. Ça nous annonce peut-être un futur gros événement. Et là, pour le coup, Bendis pourra dire, bah oui, j'ai prévu le coup depuis longtemps, à savoir Ultron Armageddon, je crois que ça va s'appeler. Donc Ultron devrait, au fait, à terme, conquérir le monde, un petit peu à la manière d'un Terminator, quoi.
D'accord.
Et donc Bendis arrive à boucler la boucle, au fait, par rapport à la première partie de l'arc. C'est vraiment une fin d'arc. Vraiment appréciable, quoi. Moi, j'ai vraiment bien aimé cette fin. L'arc d'ailleurs devient un peu plus intéressant une fois qu'on a lu la dernière partie. Ça augure de bonnes choses et ça m'a vraiment fait penser à une histoire qu'on aurait pu lire chez DC, quoi, dans la Justice League ou dans les Teen Titans par exemple. Donc c'est vraiment sympa et surtout il y a encore une fois une espèce de petit rebondissement à la fin qui est aussi très sympathique.
D'accord.
Donc voilà, donc c'est vraiment vraiment pas mal, quoi. Avengers finalement, tu vois, ça reste bon. Donc pour le moment, il m'a pas convaincu sur New Avengers, mais en tout cas Avengers voilà, je lirai la suite, quoi.
Voilà, c'est une bonne nouvelle.
Donc pour moi, c'est aussi un bail. Donc du coup,
il m'en a fait péter le jackpot, 5 bails.
Voilà, c'est je crois que c'est la première fois peut-être.
Non. Non.
Ah,
on a déjà fait des 5 bails, mais c'est vrai que ça devenait rare.
Ouais, c'est quand même rare, et là, en plus, on n'a pas tout fait, enfin, évidemment, on n'a pas tout fait, puisqu'il y a moult autres sorties, et voilà, il y a peut-être encore d'autres choses intéressantes, ce mois-ci, enfin, cette semaine, je veux dire, mais voilà, donc, en tout cas, on a fait de bonnes pioches, quoi.
Ouais, bah, ça fait plaisir, pour une fois, pour une fois qu'on n'est pas obligé de se taper des merdes.
Bah ouais. À mon grand étonnement, là c'était pas forcément là où je les attendais, mais
du type Deadpool Max ou Punisher Max Tiny Ugly World.
Ouais,
par
exemple. Mais voilà. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Si vous voulez sélectionner des comics cette semaine, là il y en a déjà 5 qui sont plutôt pas mal.
C'est bien pour les gens qui vont recevoir leur paye bientôt, ils vont déjà tout claquer.
Bah ouais. Voilà, parce que c'est les fins de mois.
C'est bête. Bien, bah c'est tout pour notre 24e épisode. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour une nouvelle vague de sorties comics VO. Vous pouvez nous retrouver, comme toujours, sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez nous laisser les commentaires sur le site. Nous envoyer un mail avec questions ou pas, hein, à l'adresse podcast@comiccity.fr ou encore un message audio via le répondeur au 09 70 440 497. Voilà, je crois que j'ai fait totalement le tour. Ah, et vous retrouvez tous les anciens épisodes sur iTunes, bien évidemment.
Évidemment.
Et donc,
et vous pouvez nous laisser des commentaires.
Oui, aussi. Et donc on se quitte comme chaque semaine avec le mot de la fin de Bunny.
Eh ben, les mots de la fin cette semaine, puisque spéciale dédicace à toi, Geneviève Coulon. Puisque je dirais Rashtek, Foutrak, Arsouille, Schnick, et je terminerai par un Schmilbliz, puisque tous ces mots, vous pouvez les retrouver dans le superbe intégral Spider-Man 1980. Voilà.
Waouh.
Ça donne envie, hein.
Ouais, c'est bien parce que je connais quasiment aucun. Hein, il voilà. Y en a quasiment aucun qui me paraissent être dans le langage courant, à part peut-être Arsouille.
Ouais, et encore.
Oh, si, Arsouille, quand même.
Et alors, Schmilbliz, Schmilblick, à la rigueur, je connais, mais alors Schmilbliz, voilà.
Ben, c'est bien. On voit qu'il y a quand même des gens qui savent traduire en France.
Bah ouais. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est encore un comics à acheter en VF, mais un comics quand même. Donc, incontournable.
Geneviève Coulon, si tu nous écoutes, on ne te dédie pas ce podcast. Ouais.
Bah
non. À bientôt, à la semaine prochaine.
Oui. Ok. Oh, arrêtons comme ça.